Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le streetcast optimiste. Je m'appelle Florie Vine, alias Floriteller, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de sens. Parfois on bloque sur un projet, une résolution, des objectifs qu'on a, ou alors on bloque sur quelque chose qu'on doit faire mais qui nous ennuie, on procrastine, on n'avance pas. En tout cas, moi ça m'arrive très souvent et j'imagine que je suis pas la seule. Et je veux partager dans cette bulle un élément qui m'aide à évaluer un petit peu tous ces projets, ces idées, ces envies qui bloquent, de manière à retrouver l'enthousiasme et la motivation d'avancer autour de tout ça. Et en gros, mon idée, c'est d'apprendre à donner du sens à ce projet, ou à réévaluer le sens que je lui ai donné à une époque, si c'est un projet qui est déjà en cours. En gros, l'idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si je bloque, c'est peut-être parce que le pourquoi je me suis lancée là-dedans, ou pourquoi je me lance là-dedans n'est pas clair, ou bien que le pourquoi de l'époque n'est plus aligné avec qui je suis aujourd'hui, ou alors que j'ai perdu de vue ce pourquoi en fait, que je continue à avancer en ayant oublié ma destination finale et du coup ça n'a plus de sens pour moi. Et si ça n'a plus de sens pour moi, je ne suis plus guidée par cette raison profonde, et bien c'est là que je vais procrastiner. Dont j'ai envie de parler parce que je l'ai beaucoup vécu ces dernières semaines, aussi bien côté création de fiction, écriture et peinture, mais aussi côté ouverture de la boutique en ligne, dont je vous parle depuis des mois si vous me suivez un peu sur les différents contenus Floriteller et qui n'est toujours pas prête au jour où j'enregistre ce podcast. Et donc j'ai envie de partager avec vous un petit peu toutes ces réflexions autour de tout ça et comment je me remets en route petit à petit. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes bloqué dans un projet, une aspiration que vous avez, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, ce que j'ai envie de proposer, c'est de prendre le temps d'insérer ce choix, cette décision, ce projet sur lequel vous bloquez, dans un sens plus global. Pourquoi on le fait? À quoi ça sert? En quoi c'est un rouage de quelque chose de plus grand qui nous tient à cœur, qui correspond à nos valeurs, à la contribution qu'on veut apporter au monde, etc. Et notamment le fait d'intégrer ces choses-là, notamment dans le cadre de choix et de décisions, dans un contexte plus global de ce qui a du sens pour nous dans notre vie, ça peut être très utile dans le cadre de prise de décision. C'est-à-dire quand on ne sait pas trop, on a un choix à faire, où il faut prioriser un aspect par rapport à un autre dans notre vie, par exemple, ou bien on vient nous faire une proposition, une opportunité, et il faut qu'on choisisse si on dit oui ou non, sachant que si on dit oui, il va falloir qu'on y consacre du temps, et que du coup on consacre moins de temps à autre chose. Voilà, toutes ces choses-là, autour de prises de décision qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, professionnelle ou personnelle, et bien peut-être que de venir essayer de donner du sens à ce choix particulier par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie ou en général, ça peut nous aider. Et je vais vous donner un exemple concret que l'autrice Cécile Duquesne a partagé il y a quelques semaines au moment où j'enregistre ce podcast. C'est probablement via sa newsletter quotidienne, hein, puisque je suis abonnée à sa newsletter quotidienne, que je vous invite à découvrir d'ailleurs si ça vous intéresse tous ces sujets-là. Mais voilà, elle avait partagé une situation où elle avait reçu une proposition de contrat pour la publication de sa thèse. Et donc elle avait une décision à prendre, c'est-à-dire est-ce qu'elle dit oui ou est-ce qu'elle dit non à cette proposition de contrat d'édition. Et en fait, elle expliquait que pour prendre sa décision, elle a remis cette publication de thèse dans un contexte plus global. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas du tout Cécile Duquesne, c'est une autrice de fiction de l'imaginaire qui est aussi entrepreneuse et qui tient une école d'écriture, où elle propose des masterclass d'écriture sur différents sujets et elle gagne sa vie comme ça. Et donc dans ce cadre-là, elle expliquait qu'elle compte proposer à l'avenir des masterclass autour de l'écriture scientifique à partir de son expérience de thèse, donc pour aider les gens à écrire des papiers de recherche, des choses comme ça. Et donc la manière dont elle a donné du sens à cette décision, est-ce que j'accepte ou pas le contrat de publication de ma thèse, c'était en se disant que si elle veut proposer à l'avenir des masterclass d'écriture scientifique, avoir sa thèse publiée à compte d'éditeur peut l'aider à asseoir sa légitimité. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, j'ai fait une thèse, non seulement j'ai été reçue dans ma thèse, mais en plus j'ai cet éditeur-là qui m'a proposé de publier ma thèse. Donc en fait ça donne un but, ça donne du sens à cette publication de thèse, dans le cadre de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire son école d'écriture, développer son école d'écriture. Et donc elle a inséré ce projet, cette décision, publier la thèse à compte d'éditeur, dans quelque chose de plus grand qui lui tient à cœur, qui est de développer son école d'écriture. Donc là je paraphrase ce qu'elle-même a raconté hein, à travers ses newsletters. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment donner du sens à un projet, une opportunité, à un choix qu'on doit faire, peut nous aider à prendre cette décision et à faire un choix finalement qui nous convient, qui nous correspond, parce que ça va rentrer dans le cadre d'un sens plus global qu'on donne aux choses. Et d'ailleurs, là, je vous donne un exemple où, si j'ai bien compris, en tout cas, Cécile Duquesne a dit oui à la publication de sa thèse, mais ça peut très bien... La conclusion du fait de faire ce processus de donner du sens à la décision qu'on veut prendre, la conclusion peut très bien être non. Peut très bien être, bah là je vais dire non parce que ça ne sert pas mon grand plan, ça sert pas ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui, ça va me prendre du temps alors que en fait j'en déduis là que c'est pas une priorité, j'arrive pas à le mettre dans quelque chose de plus grand qui sert, quelque chose qui me donne du sens. Donc ça peut aider à dire oui et à donner du sens à ce qu'on fait, mais ça peut aussi aider à dire non en fait. Donc ça aide dans la prise de décision de manière générale. Deuxième chose dans laquelle donner du sens aux projets, aux décisions peut nous être utile pour retrouver l'enthousiasme et être à nouveau motivé sur ce qu'on fait, c'est par rapport aux activités qui sont obligatoires et contraignantes. C'est-à-dire que là, en début de podcast, je vous ai présenté ça sous l'angle des projets, des activités, des aspirations qu'on a, qu'on veut faire et puis qu'on procrastine. Mais il y a aussi la question de donner du sens à ce qu'on fait et qu'on est bien obligé de faire. Et comment est-ce qu'on retrouve de l'enthousiasme et autour de choses qui sont contraignantes, soit qu'on ne peut pas abandonner tout court pour une raison X ou Y, hein, pour des raisons de contraintes de vie, etc. Soit qu'on aimerait abandonner à long terme, par exemple dans le cadre d'une reconversion, mais qu'il faut être patient, que les choses prennent du temps, la reconversion prend du temps, et qu'en attendant, il va bien falloir continuer, par exemple, à aller travailler dans ce futur ancien job, qui est pour l'instant encore le job par exemple, voilà, c'est un exemple, hein, mais ou alors peut-être que pour aller vers un projet qui vous tient à cœur, il y a des choses qui sont contraignantes à faire, par exemple tout l'administratif quand on est indépendant, toutes ces choses-là, donc voilà, toutes les vies sont empreintes de contraintes, d'obligations, de choses dont on aimerait bien se passer mais dont on ne peut pas se passer, et ça je vous le dis d'expérience, puisque moi ça fait 4 ans maintenant que j'ai amené la vie vers ce qui me plaît, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise, etc. Et ben même si ma vie ressemble beaucoup plus à ce que je veux, j'ai quand même encore plein de choses contraignantes dans mon quotidien, donc on peut pas se débarrasser de la contrainte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est remettre de l'enthousiasme dans la contrainte. Et donc le fait de donner du sens à cette activité contraignante, à la remettre encore une fois dans quelque chose de plus global et de se rappeler de en quoi cette activité contraignante sert ou nous aide dans quelque chose qui par contre nous tient à cœur, et bien là on va peut-être retrouver de l'enthousiasme à faire ces choses qui nous contraignent. Donc par exemple, accepter de parler à une conférence alors qu'on est introverti, et oui je parle de mon cas particulier, donner du sens à un boulot alimentaire, etc., etc. Donc je vais vous donner un exemple concret, comment peut-on donner du sens à un boulot alimentaire par exemple. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels, et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. Comment donner un sens à un boulot alimentaire? Alors à chacun sa réponse, hein, puisque tout ce process de donner du sens à ce que vous faites, c'est très personnel, j'ai pas la recette pour vous. Mais je peux vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire par là. Donc mettons un écrivain ou une écrivaine qui est serveuse pour payer son loyer, parce que les droits d'auteur ne lui permettent pas de vivre, et qu'il faut payer le loyer, qu'il faut mettre de la nourriture dans l'assiette, etc., qui est une réalité bien commune dans le milieu de l'écriture et dans beaucoup de milieux artistiques en général, hein. Donc la situation, c'est qu'elle est écrivaine, mais elle est aussi serveuse à 35 heures par semaine pour payer son loyer, ce truc comme ça. Donc elle peut décider de voir ce métier de serveur comme une obligation, comme une gêne qui lui prend de l'énergie sur son temps d'écriture, ou bien elle pourrait donner du sens à ce job en voyant ce que ça lui apporte dans son écriture, en remettant cette contrainte dans un sens plus global et en voyant les avantages, ce qu'elle peut y gagner à faire ce job, en quoi ça peut nourrir son métier d'écrivaine. Donc par exemple, des exemples de points positifs qu'on peut voir dans le métier de serveur quand on est écrivain, c'est que ce sont des horaires fixes, ce qui fait qu'on ne rapporte pas de boulot à la maison. Donc quand on est au restaurant, on travaille, mais quand on est chez soi, on est chez soi. Et on travaille pas. Et contrairement à des boulots d'open space, je peux vous le dire en connaissance de cause, il y a des boulots qui sont très très envahissants sur la vie personnelle et sur la vie une fois qu'on est chez soi. C'est pas forcément le cas d'un boulot de serveur. Par exemple, cette écrivaine-là peut se dire qu'elle a choisi un boulot de serveur, de serveuse dans un resto qui commence son service à midi, et du coup, elle, de 8h à 10h du matin, elle peut écrire tous les matins parce qu'elle ne va pas bosser avant midi, par exemple. Un autre avantage du boulot de serveur, c'est que c'est le genre de boulot où on peut se mettre à temps partiel. Alors ça dépend des restos, il y en a qui vont accepter, il y en a qui vont pas accepter, mais c'est le genre de job où on peut être payé à l'heure en fait. Moi j'ai été serveuse quand j'étais étudiante, et on peut travailler 5 jours par semaine, 4 jours par semaine, on peut faire 12 heures, on peut en faire 24, on peut en faire 35. Et ça aussi c'est un avantage par rapport à d'autres boulots où c'est temps plein ou rien. Et mettons que cette écrivaine par exemple commence à gagner des droits d'auteur, commence à faire des conférences rémunérées, des interventions scolaires rémunérées, et a peut-être plus besoin d'un salaire complet de serveuse, mais par contre a peut-être besoin d'un peu plus de temps à consacrer à son métier d'écriture qui décolle. Et ben là, l'avantage d'avoir ce métier de serveuse, c'est qu'elle peut se mettre au 4/5, se mettre au 3/5, et ajuster en fait les vases communicants de salaire. Peut-être même qu'elle peut faire des heures sup certains mois dans son resto parce que les droits d'auteur sont pas venus ou parce qu'elle a pas fait autant d'interventions. Donc c'est une flexibilité en termes d'horaire de travail et de salaire que beaucoup de jobs n'offrent pas. Donc voilà encore un avantage. Ou encore, troisième avantage, le fait de bosser dans un resto comme ça, ou dans un café, de voir un petit peu les clients, d'entendre un peu les conversations, etc., ça permet d'assister à des scènes de vie qui nourrissent l'inspiration de cette fameuse écrivaine fictive là, qui est serveuse, et que ça vient peut-être ajouter du grain à moudre, de l'inspiration, de l'originalité à ces scènes de roman par la suite. Ça lui donne un lien en fait avec le monde réel qu'elle aurait peut-être pas si elle était écrivaine à temps plein et qu'elle passait son temps devant son bureau. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs exemples de comment est-ce qu'on peut choisir de voir ce métier de serveur, non pas comme juste l'obligation de « si je le fais pas, je peux pas payer mon loyer », mais de le voir comme quelque chose qui enrichit le métier d'écrivain, qui a des avantages en tant qu'écrivain, et en fait, quelque part, on reprend du pouvoir sur ses propres décisions. C'est-à-dire qu'au lieu de subir ce métier de serveur, on se rappelle pourquoi on a fait le choix de faire ce métier-là, et on se rappelle ce que ça nous apporte, et ça nous donne beaucoup plus un sens de liberté intérieure et d'autodétermination quelque part. Voilà, donc pour ce deuxième point, en gros l'idée c'est de considérer cette situation contraignante et de faire l'exercice de lister pourquoi on le fait, non pas pas seulement pourquoi on le fait parce que ça me rapporte de l'argent que j'ai pas le choix, mais ce que ça peut apporter à ce qui vous tient à cœur. Essayez de faire l'exercice, on va dire proactif et intentionnel, de chercher un lien entre cette activité contraignante et ce qui vous tient à cœur, en quoi cette activité contraignante nourrit ce qui vous tient à cœur. Et ça me rappelle, je crois que c'est Jonathan Fields qui en parlait dans un de ses podcasts. Il a un podcast qui s'appelle Good Life Project en anglais, si vous parlez l'anglais, que vous voulez aller voir ça, c'est intéressant ce qu'il propose. Et il me semble que c'est lui qui avait donné ce conseil de quand vous avez plusieurs activités dans votre emploi du temps qui ont l'air d'être en compétition les unes avec les autres. Donc par exemple, vie professionnelle, vie personnelle, le travail, l'écriture et la maison, enfin des choses comme ça. C'est qu'au lieu de les voir comme en compétition les unes avec les autres pour notre temps, il conseillait de les voir comme se nourrissant mutuellement. Et il donnait l'exemple de quand on aime son travail et qu'on aime aussi sa famille, et que le soir à 18h, on est tiraillé entre est-ce que je reste plus tard à mon travail parce que j'ai des choses à faire et que j'ai envie, et tiraillé avec mais j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'ai envie de dîner avec ma famille, de profiter de ma famille, et que là ça peut donner l'impression que le temps est tiraillé entre le travail et la famille. Et Jonathan Fields disait, eh bien, on peut voir les choses différemment, de se dire que si on choisit de rentrer plus tôt, c'est pas au détriment de notre travail, mais au contraire, non seulement on va profiter de notre famille, donc on va donner du temps à cet autre aspect de notre vie qui nous tient à cœur, mais en plus on va être mieux reposé, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir faire une pause et prendre du recul sur le projet en cours par exemple, et que du coup demain matin quand je vais retourner travailler, je vais être reposée, je vais être en meilleure disposition, je vais avoir pris du recul et je vais mieux travailler que si je restais jusqu'à 20h ce soir. Donc ça veut dire que le fait de choisir de passer du temps à dîner en famille, c'est pas du temps que j'enlève à mon travail, mais c'est du temps qui nourrit aussi, qui me nourrit, qui me donne de l'énergie pour mieux travailler demain. Donc finalement, c'est mutuellement bénéficiaire, c'est pas une compétition pour notre temps. Et donc de voir, notamment si vous êtes multi-activité ou si vous avez donc un job, une famille, que vous voulez développer un projet personnel, ça peut être très intéressant d'approfondir un petit peu cette vision de Jonathan Fields, d'apprendre à voir ces activités comme se nourrissant mutuellement, comme nous nourrissant nous en tant qu'être humain et comment cette nourriture-là en tant qu'être humain nous aide dans nos autres aspects de notre vie, au lieu de voir ça comme une compétition, comme quelque chose qui nous enlève à nos activités. Troisième situation où se poser la question du sens peut être utile, c'est lorsque vous avez un projet, une initiative, une œuvre qui vous tient à cœur, mais ça bloque. Donc c'est la situation dont je parlais en début de podcast. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez choisi de faire, sur lesquels vous vous êtes organisé, vous savez quelle est la prochaine tâche, c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes payé, qui est contraignant ou quoi, c'est vraiment un choix que vous avez fait, une décision que vous avez prise, mais on procrastine. On va aller apprendre, s'informer encore plus pour éviter de passer à l'action, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent en ce moment, parce que je pense que j'ai pris pas mal de décisions dans ma vie d'artiste. Donc les décisions dont je parlais dans la première partie sont déjà prises. J'ai réussi à équilibrer à peu près mes contraintes versus ce que j'ai envie de faire. En 2019, mon thème de l'année, c'était équilibre, donc je pense que j'ai à peu près équilibré tout ça. Et là, je suis donc confrontée à ce troisième point dont je vais vous parler pour terminer cette bulle nomade, qui est comment on fait quand on perd l'enthousiasme sur quelque chose qu'on a choisi, qui nous tient à cœur, d'où ça vient, et justement, comment en redonnant du sens à ces choses-là, on peut retrouver l'enthousiasme. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est que cette perte d'enthousiasme est peut-être liée à un désalignement avec le sens qu'on donne à ce projet. Donc c'est soit on n'a pas pris le temps de donner du sens à ce projet de manière générale, c'est-à-dire qu'on s'est lancé là-dedans parce qu'on nous a dit qu'il fallait que, ça je le vois beaucoup en communication d'artistes, beaucoup d'artistes et d'auteurs qui veulent trouver un public, qui vont ouvrir un blog, une page Facebook, une newsletter, un truc comme ça, parce qu'on leur a dit de le faire et qu'ils n'ont jamais pris le temps de donner du sens à cette activité-là en particulier pour eux, et où du coup on le fait un peu parce qu'on nous a dit que, mais ça n'a pas de sens pour nous. Donc ça peut être une chose. Ou alors, on a perdu de vue le pourquoi qu'on s'était donné à la base, et du coup, il faut se le rappeler, ou alors, le pourquoi qu'on avait en tête au moment de se lancer ne nous correspond plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, on évolue, on change, on a des valeurs qui évoluent, on n'a peut-être pas la même vision des choses maintenant qu'il y a quelques années, et puis parfois, on continue sur une lancée qu'on s'était donnée il y a quelques années, ou quelques mois, ou quoi, et en fait, en travaillant sur soi, en évoluant, en faisant de l'essai-erreur, on se rend compte que qu'on n'est plus aligné soit avec la chose en elle-même, auquel cas autant l'arrêter, soit on est toujours aligné avec le projet en lui-même, on n'est plus aligné sur le comment est-ce qu'on le met en place, sur les actions en elles-mêmes. Donc du coup, c'est dans ces situations-là, soit quand vous n'avez pas votre pourquoi, ou quand vous avez perdu du votre pourquoi, ou quand votre pourquoi et votre comment mettre en place ce pourquoi ne vous correspond plus, ça peut être intéressant à ce moment-là de faire un exercice de mettre à plat le pourquoi on a voulu se lancer là-dedans en premier lieu, et en quoi ça correspond encore à quelque chose qui nous donne du sens à nous tel qu'on est devenu aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple de ma boutique pour ce troisième point. Donc les curiosités de Florie Taylor, qui est un projet que j'ai en tête depuis novembre 2018 quand même, et qui naît en février 2020, au moment où j'enregistre cet épisode, toujours pas en ligne. Mais c'est pour bientôt, vraiment cette fois-ci. Peut-être que d'ici que vous écoutiez cet épisode, la boutique sera en ligne. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet que je porte depuis longtemps et sur lequel je procrastine depuis plusieurs mois. Et donc j'ai fait cet exercice de mettre à plat le pourquoi et de me demander ce qui se passe. Parce que personne ne m'a forcé à lancer cette boutique, c'est moi qui en ai envie, alors qu'est-ce qui se passe? Et donc je vais vous expliquer un petit peu le résultat de tout ça pour vous donner un exemple. Donc j'ai eu l'idée de cette boutique avec une impulsion initiale qui était créative. C'est-à-dire que j'étais guidée par tous ces super trucs que j'allais pouvoir créer et proposer dans la boutique. C'est mon côté maker du Sparky Type. C'est que j'ai commencé à réfléchir, ah là, je pourrais faire tel PDF et tel masterclass, et je pourrais faire aussi des fichiers audio, puis je pourrais mettre en ligne des nouvelles, je pourrais les illustrer, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà, plein d'idées de choses que je pourrais créer pour vous et utiliser la boutique en fait comme un moyen de vous le proposer. En fait, la boutique, c'est pas la fin en soi, c'est les choses que je crée, que je propose à travers la boutique. Mais au fil des semaines, évidemment, comme n'importe quelle personne qui a un projet, je me suis renseignée sur toutes les choses que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal. Donc je me suis renseignée sur le e-commerce, je me suis renseignée sur le marketing en ligne, sur toutes ces choses-là. Et en fait, tous ces contenus que vous trouvez sur internet, que ce soit des formations payantes ou des contenus gratuits, ramène tout à l'objectif de gagner plus d'argent, de faire plus de ventes, etc. Puisque bien évidemment, la plupart des gens ouvrent une boutique pour gagner de l'argent avec. Et c'est peut-être bien le but ultime de beaucoup de gens qui ouvrent une boutique. C'est leur pourquoi, c'est leur raison principale d'ouvrir la boutique. Que si c'était pas pour gagner de l'argent, ils se feraient pas chier d'ouvrir une boutique, voyez. Et c'est effectivement assez logique quand on y pense, quand on lit des conseils sur comment lancer une boutique avec succès, comment trouver des acheteurs et des acheteuses pour ce qu'on propose dans la boutique, la métrique classique de mesure de cette réussite de lancement de la boutique et de développement de la boutique, c'est l'argent qu'on gagne avec, le nombre de personnes qui achètent, le chiffre d'affaires qu'on va faire, les bénéfices qu'on va faire, tout est lié à des chiffres, à des métriques, à de l'argent, etc. Et à force de lire tous ces contenus pour m'aider dans mon comment mettre en ligne ma boutique, bah j'ai fini par me laisser un peu contaminer par ce pourquoi-là. Et par avoir moi aussi en tête des métriques de combien de gens vont acheter mes trucs, et puis d'aller calculer mon chiffre d'affaires espéré, d'aller calculer ci, calculer ça. Sauf que moi, ce n'est pas le fait de gagner plein d'argent qui me motive à lancer cette boutique. C'est une conséquence du lancement de la boutique, je vais proposer des produits payants et j'espère bien que ça va me rapporter de l'argent, mais ce n'est pas mon pourquoi. Et du coup, pendant des mois, j'ai procrastiné sur ces tâches qu'on m'avait conseillées dans ces différents contenus marketing machin, par manque de sens profond, par manque d'un pourquoi qui me parle à moi. J'ai oublié quelque part de mettre ce projet au sein de quelque chose de plus grand qui me tient à cœur à moi. Et du coup, là, je suis revenue sur ma question initiale, ma question qui me tient à cœur à moi. En quoi la boutique sert-elle l'artiste que je suis et en quoi m'aide-t-elle à contribuer de la manière que je veux contribuer en tant qu'artiste? Et je pense que ce genre de question est intéressante à se poser pour remettre un petit peu en cause le pourquoi classique qu'on peut nous imposer, c'est-à-dire que nous, si nous-mêmes, on n'a pas de pourquoi. Si on ne sait pas donner un sens profond pour soi-même, les sources extérieures ne vont pas se gêner pour le faire, parce qu'il y a, effectivement, les gens partagent du contenu, ils vont partager leur pourquoi à eux, et puis il y a un petit peu des idées communes dans la société de pourquoi on devrait faire telle ou telle chose. On devrait ouvrir une boutique pour gagner de l'argent. Donc l'idée que je vous propose là, c'est de remettre un petit peu en cause ce pourquoi classique et s'approprier le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et en quoi c'est intéressant de prendre le temps de s'approprier ces choses-là et de se définir son propre pourquoi? Alors première chose, ça amène à nous demander quelle est notre vision personnelle pour ce projet, cette initiative, etc. Ça nous amène à nous demander qui on est, ce qu'on veut, notre raison d'être de manière générale. Et du coup, personnellement, j'ai passé tout le début de 2020 à me demander quel artiste je suis de manière générale, ce que j'ai envie d'apporter en tant qu'artiste en général, sans rapport direct avec la boutique. Que finalement, ce que je veux apporter avec la boutique, ça s'insère dans ce sens général de ce que je veux faire, de ce que je veux construire en tant qu'artiste. Et deuxième chose en pourquoi c'est intéressant, c'est que ça permet d'évaluer ces projets, ces activités, ces décisions que vous avez, qui vous entourent, sur lesquelles vous procrastinez, pour faire des choix et pour prioriser les choses qui donnent du sens à notre vie, à nous, qui ajoutent à notre vision, à notre raison d'être, qui apportent de la valeur pour nous-mêmes et par extension du coup pour les autres. Parce que oui, la réponse à ce questionnement peut être d'abandonner le projet, parce que finalement il n'apporte rien à ce qui nous tient à cœur, il n'apporte rien à notre grand plan, il n'apporte rien à ce qu'on veut accomplir au fond. Donc en fait je trouve que c'est vraiment super important de recréer ce lien entre ces projets qu'on veut accomplir, ces tâches qu'on fait, cette manière dont on remplit finalement nos journées, avec qui on est au plus profond de nous-mêmes et ce qu'on a envie d'accomplir en tant qu'être humain. Pour revenir à mon exemple de boutique, j'ai donc fait ce travail de réévaluation en tant qu'artiste en général, et au final, j'ai réfléchi non pas aux revenus que je voulais dégager en tant qu'artiste, que je dégageais avec mon art, mais je suis revenue à ce que je voulais créer, ce que je voulais apporter, ce que je voulais construire avec cette boutique. Pourquoi? Pour qui? La valeur qu'elle apporte, que le podcast et les autres contenus existants ne peuvent pas apporter, etc. Et en fait, ce travail m'a permis de remettre à plat le projet et de redéfinir le sens que je lui donne dans le cadre de la valeur que je cherche à vous apporter en tant qu'artiste. Et donc j'ai fait tout ce travail sur décembre 2019 et janvier 2020. Et depuis que j'ai fait ce travail, j'ai 3 produits bien définis de prévus. Donc 2 guides autour du voyage créatif et une nouvelle solarpunk, donc de science-fiction optimiste. La nouvelle est terminée, il y a un des 2 guides qui est terminé, le deuxième que je suis en train de bêta-tester et de revoir et qui va pas tarder à être terminé. J'ai trouvé le plugin WordPress qui va bien pour techniquement mettre la boutique en ligne, etc. Donc en gros, j'ai plus avancé sur ma boutique en 2 mois qu'en plus d'un an sur le projet. Pourquoi ? Parce que finalement, en m'éloignant du but gagner de l'argent pour en trouver un autre qui est davantage en accord avec mes valeurs et ma vision, j'ai intégré ce projet boutique comme un rouage d'une raison d'être plus grande. Je lui ai donné du sens dans le cadre de la contribution que j'apporte pour explorer les possibles avec Optimize, pour trouver et exprimer votre voix, VOIE et VOIX. Voilà, donc pour résumer cette bulle nomade qui est un petit peu longue, mais j'espère que vous la trouvez utile. Donc, 3 cas de figure. Prendre une décision, donner du sens à des activités contraignantes et remettre à plat un projet sur lequel vous procrastinez. Donc c'est 3 cas de figure où donner du sens, revenir à votre pourquoi, peut vous aider à retrouver l'enthousiasme et la motivation d'avancer. J'espère que ces réflexions vous ont été utiles et vous ont plu. Si vous avez d'autres idées ou d'autres questionnements à partager sur le sujet, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn117, par mail sur hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram où je suis Floriteller. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !